Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce dernier mardi politique de la saison. Nous recevons ce soir Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées, de l'autonomie, mais aussi de l'enfance. Portefeuille élargi depuis le remaniement dit technique. On va parler Grèce, justice pour les mineurs, place de l'islam en France, des socialistes aussi dans tous leurs États, avec notamment les régionales de cette fin d'année. Bonsoir Laurence Rossignol.
Bonsoir.
Avec moi dans ce studio pour cette émission, Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir.
Bonsoir Anissa.
Alors, ce qui fait la une depuis plusieurs jours, c'est la Grèce. En tout cas, depuis hier soir, les nuages noirs semblent s'éloigner. Les dirigeants de la zone euro se montrent un petit peu plus optimistes sur les chances de sceller un accord d'ici à la fin de la semaine. Bon, Laurence Rossignol, sur le fond, est-ce qu'on n'a pas un petit peu joué à se faire peur? Parce que est-ce qu'il y a vraiment un autre choix que de maintenir la Grèce dans la zone euro?
Ah, mais il y a toujours un autre choix et le pire peut toujours arriver. Il y a deux enjeux dans l'affaire de la Grèce. Le premier, c'est de trouver un accord durable qui donne au peuple grec des conditions de vie, qui soient des conditions de vie décentes. Et le deuxième, c'est de garder la Grèce dans l'Union européenne, car la sortie de la Grèce, qu'on appelle le Grexit, la sortie de la Grèce de l'Union européenne, de l'euro en particulier, serait un échec de l'Europe. C'est-à-dire qu'une Europe qui n'est pas capable de conserver en son sein des pays qui sont en difficulté serait une Europe qui faillirait dans sa mission. Et donc, d'une part, trouver les conditions d'un accord qui permette que les Grecs puissent se soigner, assurer leur quotidien, continuer de bénéficier des pensions de retraite, même si elles sont amoindries, même si l'âge de la retraite est repoussé.
C'est tout l'enjeu prolongé jusqu'à 67 ans.
C'est tout l'enjeu des discussions qui ont lieu en ce moment. Mais moi, j'ai deux préoccupations. D'abord les conditions de vie des Grecs et ensuite la sauvegarde de l'Union européenne et éviter cet échec. Mais ce que je trouve intéressant sur la Grèce, en fait, c'est un sondage qui est sorti cette semaine et qui indique que les Français aujourd'hui sont majoritairement favorables à ce que la Grèce reste dans l'Union européenne. Ils souhaitent que la Grèce reste dans l'Union européenne, alors que si on compare ce sondage sur les années précédentes, en 2011 ils étaient 73% à vouloir que la Grèce sortent. En 2013 ou 2014, ils étaient encore 65%. Aujourd'hui, ils sont plus que 43% à penser que ce serait une bonne chose que la Grèce quitte l'Union européenne. Donc, les Français, aujourd'hui, ont appréhendé l'idée que l'enjeu est que la Grèce reste dans l'Union européenne, parce que d'abord, il y a de la solidarité avec la Grèce. C'est un pays avec lequel on a des liens culturels, amicaux, historiques. C'est un pays, je rappelle qu'à l'époque des colonels, la France a accueilli beaucoup de réfugiés politiques de démocrates grecs. Et je trouve que, alors que les Français sont quand même ambigus sur leur rapport à l'Europe, ils peuvent voter non au traité, et maintenant, là, cette semaine, dans un sondage, ils disent oui à la Grèce dans l'Union européenne. C'est un bon signe sur la façon dont on peut, nous, en France, peser autrement dans le destin de l'Europe.
Alors, justement, puisqu'on parlait de peser autrement, Lilian Alemania de Libération vient de nous rejoindre dans ce studio là-dessus.
Est-ce que vous pensez que la France et François Hollande ont fait assez pour aider la Grèce, ou devrait avoir une parole publique peut-être un petit peu plus forte? On entend beaucoup Christine Lagarde, Wolfgang Schäuble, on entend moins François Hollande.
Oui, les propos de Christine Lagarde sont d'ailleurs très désobligeants, voire même très déplacés à l'égard des Grecs et des élus de la Grèce, démocratiquement élus. Façon de présenter les Grecs comme d'un peuple enfant qui aurait pas payé des impôts et qui voudrait avoir des droits sociaux et qui voudrait tout. Et c'est vraiment très désobligeant et c'est pas digne. Mais je pense que le rôle de François Hollande, celui qu'il assume en ce moment, n'est pas tant multiplier les déclarations publiques que d'agir au sein de l'Union européenne pour permettre les conditions d'un accord. Et je sais, et nous savons tous, que le gouvernement français et François Hollande sont extrêmement actifs en ce moment, en rappelant deux choses essentielles. La première, c'est que les Grecs sont légitimes à vouloir que le programme sur lequel ils ont été élus soit respecté. Il y a une validation démocratique des dirigeants grecs. Ils viennent pas, c'est pas comme ça, des hurluberlus qui arrivent d'on ne sait où pour venir porter le fer contre l'Union européenne. C'est des gens démocratiquement élus et le gouvernement français leur affirme cette légitimité et comprend qu'ils ont des comptes à rendre à leur peuple. Et d'un autre côté, il y a aussi des engagements qui ont été pris par la Grèce vis-à-vis de l'Union européenne. Et la ligne de crête, c'est celle de la compatibilité entre les engagements pris par les élus de la Grèce auprès des électeurs grecs et pris par la Grèce auprès de l'Union européenne. C'est ce à quoi en ce moment travaillent les dirigeants et particulièrement les nôtres.
Rosine Favre, France 24.
À votre avis, quel va être l'impact de l'exemple de la Grèce sur l'électorat de Marine Le Pen ? Je vous pose cette question parce que c'est anti-Bruxelles, c'est anti... Voilà, est-ce que elle a soutenu Marine Le Pen Syriza? Est-ce que vous considérez que, cet électorat, comment va-t-il évoluer face à la situation?
J'essaie de me représenter votre question et surtout ce qui est déterminant chez les électeurs de Marine Le Pen. Je ne suis pas sûre que les électeurs de Marine Le Pen se déterminent. En fonction,
ils disent en gros, on va payer pour la Grèce.
On va payer pour la Grèce.
Qui paye pas ses impôts.
Oui, mais c'est plus.
Qui ne lève pas les impôts dans l'Église orthodoxe, chez les riches,
ouais, chez les armateurs.
Voilà, qui sont 10, un peu des oligarques grecs et qui gardent l'argent et qui.
Oui, mais les électeurs de Marine Le Pen, ils sont eux aussi très ambigus. C'est qu'à la fois, ils sont contre les impôts, ils sont pour le libéralisme pour les citoyens et en même temps, ils sont attachés aux protections collectives parce que il y a chez les électeurs de Marine Le Pen, des gens qui sont attachés à la sécurité sociale, à la retraite, à l'hôpital, aux services publics. Donc je pense que le rapport des électeurs de Marine Le Pen à la situation en Grèce, il est fait, comme pour nous tous, aussi d'une part d'empathie. Les électeurs de Marine Le Pen ne sont pas que refus des protections collectives, sinon ils seraient probablement moins nombreux. Moi je les connais bien, les électeurs de Marine Le Pen, dans ma région il y en a beaucoup, et ce sont des gens qui peuvent aussi défendre nos systèmes sociaux. Et la grande mystification de Marine Le Pen, c'est de leur faire croire qu'elle, elle va défendre avec eux ces protections collectives auxquelles ils sont attachés. Et c'est en cela qu'ils se font rouler dans la farine par le Front National, c'est que le Front National n'est pas un parti qui est attaché historiquement dans sa construction, ni à la solidarité. Voilà, ce n'est pas un parti qui défend la solidarité comme valeur collective. Mais les électeurs de Marine Le Pen, ils sont dans des situations où ils ont besoin de la solidarité que justement la France leur garantit.
À propos de solidarité, Jean-Marie Le Guen, le ministre des Relations au Parlement, écrivait ce week-end dans une tribune à l'hebdomadaire Le Point, sur le site web du Point, pardon. La question sociale en France n'a pas été résolue, les inégalités ne cessent de s'aggraver, et pourtant la question sociale n'est plus l'élément moteur du débat politique en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat?
Ce que j'aime bien chez Jean-Marie Le Guen, c'est qu'il travaille intellectuellement, il réfléchit et il écrit. Et donc, il pose des débats et il les formalise. Et donc, quand il les pose, il nous oblige tous collectivement à débattre de ce qu'il dit. Moi, je comprends ce que dit Jean-Marie Le Guen. J'ai une nuance, c'est que je crois que la question sociale n'est pas le seul déterminant aujourd'hui. Et que si c'était le cas, d'ailleurs, on aurait des tas de problèmes en moins. S'il n'y avait que la question sociale, on n'aurait pas eu la manif pour tous, on n'aurait pas une montée de l'intolérance, du racisme, on n'aurait pas un pays qui se regarde en disant c'est quoi mon identité, on n'aurait pas toute une série de débats qui aujourd'hui, de revendications aussi. Moi, je suis au ministère de la Famille, je vois des revendications qui ne sont pas des revendications sociales, qui sont portées, celles sur les nouveaux modes de procréation, que ce soit la PMA, les mères porteuses, des gens qui revendiquent des droits nouveaux. Et ces sujets-là, qui sont des sujets qui interpellent les Français et qui organisent aussi une partie du paysage politique, ne sont pas des sujets liés à la question sociale. Pour autant, et je ne fais pas l'exégète ni l'interprète de la pensée de Jean-Marie Le Guen, mais ce que je sais, c'est que la question sociale reste et demeure un des sujets déterminants pour toute une partie de la population. Mais comme on est dans une société, il le dit lui-même, dans lesquelles les inégalités continuent, sont très enquistées, vous avez dans des des parties de la société qui sont moins victimes des inégalités, qui souffrent moins aujourd'hui, des problématiques qui sont des problématiques de droit. Voilà, des problématiques d'émancipation. Et donc, ce qu'il faut porter aujourd'hui, c'est à la fois les questions d'émancipation, les valeurs républicaines et la question sociale. C'est l'enjeu de la gauche aujourd'hui. Voilà, c'est la synthèse de tout ça.
La gauche n'est pas en défense par rapport à ces questions-là et est en train un peu de perdre une certaine bataille culturelle sur des sujets, j'allais dire, d'identité.
Est-ce que la gauche, est-ce que sur les sujets d'identité, vous évoquez les sujets de métissage,
oui.
De coexistence,
y compris sur les questions de la famille, par exemple.
Sur la question de la famille, moi je dirais pas qu'on est en perte, je dirais pas qu'on est en perte d'identité. Je pense qu'on a des sujets nouveaux, extrêmement complexes à appréhender. Je prends un problème comme la gestation pour autrui, les mères porteuses. On peut, moi je suis hostile à la GPA. Je pense que c'est un business sur le corps des femmes dont on ne peut pas comme ça considérer que c'est juste moderne et nouveau et que tout le monde a droit. Et puis à côté, il y a des enfants qui arrivent sur notre territoire qui sont nés par GPA. Comment on trouve la conciliation entre la protection des femmes et le refus d'un nouveau business sur le corps des femmes et les droits des enfants qui sont là aujourd'hui, c'est des questions qui sont très nouvelles dans ces problématiques-là. Le monde est quand même infiniment plus complexe qu'il ne l'était auparavant parler de la complexité, ce n'est pas simplement essayer de trouver une fuite pour dire j'ai pas la réponse binaire à la question que vous me posez. Mais et d'ailleurs un des enjeux pour nous, et je trouve qu'on ne fait pas assez, c'est de faire partager la complexité, de mettre les citoyens en situation de comprendre que ces problèmes n'ont pas qu'une réponse et qu'il faut qu'on en construise des nouvelles. Et je pense qu'on protège trop les citoyens.
Sauf voilà. Que vous dites ça et que finalement ça se retrouve devant les tribunaux et que sur notamment la question de la GPA, c'est la Cour de cassation qui va devoir trancher sur le cas de ces enfants.
Ça tombe bien.
On attend de votre part une position, un regard, non ?
Mais ça tombe bien, c'est un problème de droit avant tout. Le problème de filiation, c'est d'abord un problème de droit, c'est un problème de droit civil. Donc c'est bien normal que les magistrats soient les premiers interrogés sur quelles sont les solutions juridiques que nous avons à ce sujet-là. Et puis après, il faut que le débat sur des sujets de ce type, il faut que la société prenne aussi. Moi, qui sommes-nous pour considérer qu'on sait forcément sur des sujets si nouveaux, si perturbants, que nous savons forcément. Moi, je demande à ce qu'on en discute collectivement. Celui-là, mais il y en a mille autres hein, dans de ce type-là. Et il faut que la société partage ces sujets-là. Et la nature du débat politique, elle est souvent un peu réductrice. Et ce que fait Jean-Marie Le Guen, c'est qu'il pose des débats politiques et on en a besoin. Voilà.
Alors,
je salue ce qu'il fait.
Il parlait aussi de difficultés liées à l'absence d'un islam de France. Alors, hier soir, Manuel Valls clôturait à l'Assemblée nationale un forum sur le thème République et islam, relevons le défi. La tenue de ce forum en soi, elle a été critiquée par des responsables français du culte musulman pour lesquels les responsables politiques mettent trop en avant l'islam. Est-ce que c'est une critique que vous comprenez?
Oui, ce que je comprends surtout, c'est on est sur des sujets, si on en parle, on s'expose, si on n'en parle pas, on est dans le déni. Donc, c'est vraiment dans les difficultés. Ce que j'observe, moi, c'est que je trouve que les religions commencent à prendre beaucoup de place dans nos vies. Enfin, pas dans nos vies privées personnelles, moi, aucune religion ne vient me dire ce que je dois faire, mais dans le débat public et dans l'espace public. Et même, je ne trouve pas que ce soit tant les religions qui prennent de la place que les traditions, les coutumes et ce que les religions justifient comme intervention dans la vie des individus. Parce qu'en fait, la pratique religieuse, les cultes, la pratique du culte pose relativement peu de problèmes aujourd'hui. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est les pratiques culturelles qui vont avec.
On en revient à la question de l'identité.
Les pratiques culturelles qui vont avec.
Bon, enfin, il y a le problème des mosquées, pardon. Il y a quand même un gros
Manuel
problème.
Manuel Valls le disait lui-même
là-dessus,
hier soir,
sur notamment le financement, d'où il vient. Souvent des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, dont
oui.
On connaît.
Oui, mais sur que la France soit interpellée sur aujourd'hui comment des cultes qui étaient peu présents auparavant et qui maintenant sont présents peuvent s'exercer, c'est une chose. Mais dans la pratique religieuse, il n'y a pas de problème collectif. Les gens pratiquent leur religion dans des conditions qui sont des conditions qui ne portent pas atteinte aux autres. En revanche, les traditions, les pratiques culturelles, les coutumes, c'est ça qui nous pose problème. Et c'est ça qui rentre, quand je dis, ça envahit l'espace public, c'est l'affaire de l'épicerie hier à Bordeaux.
Alors, on va repréciser cette épicerie.
Je raconte, racontez, vous ferez ça mieux.
Voilà, c'est parce que Alain Juppé lui-même a saisi les autorités en disant qu'il y avait un souci avec cette fameuse épicerie qui ouvrait aux hommes les lundis, mardis, mercredis, vendredis, et aux femmes les autres jours.
Voilà. Bon, une affaire comme ça, c'est juste pas acceptable dans la République. Ce n'est pas tolérable. Voilà. Mais on en voit se multiplier. On voit se multiplier. Et moi, j'entends surtout ce que me disent des jeunes femmes qui vivent dans des quartiers populaires, et sur la pression qui est mise sur elles pour qu'elles plient sur l'exercice des coutumes et des traditions. Et ces femmes-là, il faut les soutenir aujourd'hui. C'est elles qui sont porteuses des valeurs de la République. Et pourquoi ça prend de l'espace? Pourquoi ça prend de la place dans le débat public? C'est parce qu'on peut pas, il faut pas les abandonner. C'est elles qui représentent l'avenir de la France et ce qui sera demain notre diversité culturelle dans les lois de la République.
Quelle est votre position, par exemple, sur les menus à la cantine pour les enfants? Est-ce qu'il faut aller jusque-là, comme certains qui considèrent qu'il faut interdire les menus spéciaux? Ou vous dites, faut quand même respecter la religion d'autrui et donc accepter ces menus?
Mais rien que le débat sur les menus est un débat biaisé. Il y a dans toutes les cantines des options. Ça fait fort longtemps qu'il n'y a pas un seul plat dans les cantines. Les enfants ont le choix. Et donc, dans ces choix, il y a possibilité pour les intolérants au gluten, ceux qui n'aiment pas le poisson, ceux qui ne mangent pas de porc, de trouver à manger à la cantine. C'est la manière dont on a fait de ce qui était la pratique dans les cantines, c'est-à-dire les menus variés, un problème religieux, mais j'attire votre attention sur le fait que ce sont quand même ceux qui sont hostiles à la diversité culturelle de la France, qui ont pris le débat sur les cantines pour en faire un débat religieux, alors qu'en réalité il n'y avait pas de problème dans les cantines jusqu'à ce qu'il y en ait qui fassent un étendard de cette histoire de menu de substitution, mais dans toutes les cantines ça se passe très bien. Ce qui se passe pas bien, c'est la manière dont un certain nombre de dirigeants politiques utilisent ces menus pour en faire une affaire religieuse et pour nous diviser.
Mais après tout, le sujet de la République, de l'identité, de la place de la religion, on pourrait dire que c'est éminemment présidentiel. Est-ce qu'il faudrait pas que François Hollande prenne position? On parlait de
sur les menus.
Qu'il fasse un grand discours sur la place de la religion dans l'espace public, sur la religion et la République, sur.
Mais François Hollande est très présent et il parle sur la République depuis les événements de janvier. Il n'a cessé de parler de la République, de ses valeurs, de la laïcité, du vivre ensemble, et tout ça est un fil conducteur de l'action du président de la République. Avant les événements de janvier, mais plus particulièrement encore depuis janvier.
Voilà, mais Emmanuel Valls lui-même disait hier soir, par exemple, sur prendre sujet sur l'islam, que ça serait un enjeu électoral en 2017. Il l'a dit de cette manière-là.
Oui, ce sera bien sûr que ce sera un enjeu électoral en 2017. Ce qui sera un enjeu électoral en 2017, c'est la République. Voilà, c'est la République.
Et
la
pas manière l'identité, dont... ce ne sera pas un enjeu électoral.
L'identité. Mais notre identité, elle est républicaine. C'est quel est le contenu de l'identité? Le sujet, c'est quel est le contenu aujourd'hui de l'identité républicaine? Une fois qu'on a dit les deux mots, identité républicaine, qu'est-ce qu'on met dedans? Et bien sûr que ce sera un débat, puisque quand même j'ai cru remarquer que d'abord l'extrême droite en fait un débat, et que l'ex-UMP aujourd'hui court après l'extrême droite pour en faire aussi un débat, puisque les menus de substitution, c'est quand même eux qui l'ont ramené le sujet il n'y a pas très longtemps. Ça vient quand même pas de la gauche, ces sujets-là. Ça vient de la droite qui court après l'extrême droite.
Merci Laurence Rossignol. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées, de l'autonomie et de l'enfance. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après les informations.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Mardi politique, deuxième partie avec Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées, de l'autonomie et de l'enfance. Et à mes côtés, Lilian Alemania de Libération, Roselyne Fèvre de France 24. Alors, on va beaucoup parler des socialistes dans cette deuxième partie, notamment des régionales, puisque Laurence Rossignol, vous êtes candidate. Je voudrais qu'on reprenne d'abord sur un sujet qui a beaucoup agité la classe politique ces derniers jours. Je parle des déclarations de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui a dit « Je n'assumerai pas que la réforme de la justice des mineurs promise par François Hollande ne soit pas réalisée. Et si on ne fait pas ça, c'est un aveu d'impuissance », c'était dit aussi. Alors d'abord, sur le fond, Laurence Rossignol, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il est plus que temps de faire cette réforme ?
Je pense que c'est une réforme qu'il faut faire dans ce quinquennat. Parce que d'abord, la justice des mineurs, qui a été 37 fois, je crois, modifiée, l'ordonnance de 45 a été 37 fois modifiée, est maintenant un texte qui est incohérent, pas pratique pour les magistrats, et dont on ne sait plus d'ailleurs quelle est la philosophie et l'esprit même. Donc il y a nécessité à revenir à ce qu'est la philosophie de la justice des mineurs. D'abord punir les mineurs qui ont contrevenu à la loi, qui ont transgressé la loi, punir et éduquer. C'est le sens de la justice des mineurs. Et ensuite, il faut garantir aussi aux victimes une juste réparation et que la justice leur soit rendue. Ce n'est pas parce que l'auteur des faits est un mineur que la victime est moins victime. Voilà. Donc, il faut garantir aux victimes la réparation et il faut restaurer l'esprit de l'ordonnance de 45 en ce sens où un mineur, c'est pas la même chose qu'un majeur. Il doit encore être protégé et il doit être puni. Et la punition, le but, c'est l'éducation. Voilà. Et il faut effectivement revenir à ça. Moi, en tant que chargée de l'enfance depuis une semaine, je sais que nous avons aussi des progrès à faire dans notre respect de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui nous demande effectivement que les mineurs soient l'objet d'une justice qui est une justice protectrice, qui prenne en compte le fait que ce sont des enfants et des grands enfants, mais encore des enfants. Et donc le président de la République s'est engagé et cette réforme se fera. Je crois qu'il ne faut pas chercher à diviser, opposer les uns et les autres aujourd'hui autour des punir, réparer, éduquer.
Mais on a bien du mal à imaginer quelle serait la fenêtre de tir en vue l'embouteillage législatif au Parlement. Ça pourrait éventuellement tomber en 2016, sauf qu'on imagine mal Matignon se lancer dans une bataille aussi clivante à quelques mois de la présidentielle.
Écoutez, effectivement, il y a un embouteillage législatif. D'ailleurs, c'est pour ça que Christiane Taubira probablement a fait ce qu'on fait tous, c'est qu'à un moment donné, le problème législatif, c'est une boîte dans laquelle il tient 10 textes et il y en a à peu près 30 qui sont là dans la salle d'attente et les ministres poussent à ce que leurs textes fassent partie des 10 qui vont être sélectionnés. Donc c'est probablement ce qu'a fait Christiane Taubira. Il n'y a pas dans ce qu'elle a dit.
Ça résonne pas comme un ultimatum. Parce que beaucoup l'ont lu comme ça.
Oui. C'est quand même étonnant d'avoir une ministre comme ça qui dit si mon texte passe pas, ben je démissionne en fait.
Oui, moi j'ai pas compris qu'elle disait ça. J'ai pas compris qu'elle disait si mon texte passe pas, je démissionne.
Elle n'assumerait pas cette responsabilité.
Elle défend son texte. Elle demande une place dans le calendrier parlementaire. Elle fait ce que nous faisons tous. Et Christiane Taubira. La magie du verbe de Christiane Taubira elle se retrouve aussi quand elle défend ses propres textes, pas simplement comme elle a fait cet après-midi.
C'est pas l'enfant gâté du gouvernement.
On sait qu'elle n'est pas toujours appréciée par ses collègues, dont certains l'appellent la diva.
Franchement, quand on voit ce que Christiane Taubira a encaissé, subi comme insulte personnelle, raciste, sexiste, depuis qu'elle est ministre de ce gouvernement, je vois pas comment on peut dire d'elle que c'est une enfant gâtée. Voilà.
Non, franchement, mais
peu d'entre nous subissent ce qu'elle a subi.
Et enfin, vous savez bien que la politique est dure et c'est pas ça qui a.
Non, on est au-delà. Là, avec Christiane Taubira, on est au-delà.
Non, mais d'accord. Mais bien entendu, c'était terrible. Mais ça saurait si, quand on est victime de quelque chose, eh bien, ça protège. Le monde politique est suffisamment dur et violent. Ce que je veux dire, c'est tous ces talents que vous avez énumérés. Est-ce que tout ça la protège pas effectivement de elle peut. Voilà, c'est pas Delphine Bateau. Delphine Bateau avait dit. Qu'elle se battait pour son ministère.
Je trouve que son budget est un mauvais budget.
On lui a montré la porte, elle est partie, salut, au revoir, un café, l'addition. Taubira, c'est la star du gouvernement, mais peut-être en a-t-elle les moyens, c'est la question que je vous pose. Est-ce que quand on bosse bien, eh bien, on est aussi protégé?
Ah, mais quand on bosse bien, pour reprendre votre expression, quand on est comme elle, régulièrement en première ligne pour défendre la politique du gouvernement et en particulier la sienne. Quand on subit ce qu'elle subit et qu'on tient comme elle tient, c'est pas que ça protège, c'est qu'effectivement ça force le respect. Et dans un gouvernement aussi, les marges de liberté se conquièrent avec le travail et le mérite. Et Christiane Taubira, il n'a échappé à personne, c'est une femme libre. Voilà, c'est une femme libre, dans son expression. On est tous émerveillés par son expression, par ses convictions. Eh bien, dans cet émerveillement, il y a aussi sa marge de liberté qu'elle se construit, parce que c'est une personne effectivement exceptionnelle. Mais par ailleurs, je trouve qu'elle est toujours extrêmement... Elle mord jamais le trait, quoi. Elle reste exactement. Elle dit ce qu'elle a à dire, mais elle ne met pas le gouvernement en difficulté. Elle est elle-même, mais on voit bien qu'elle est très solidaire de ses collègues et très solidaire du gouvernement.
Indispensable à la couleur gouvernementale, comme dirait Jean-Christophe Cambadélis. Vous reprendriez cette formule? Vous la trouvez heureuse?
Comment dire? C'est pas celle qui me serait venue en premier à l'esprit.
Autre dossier, celui des migrants. Après les évacuations ces derniers jours à Hidalgo, la maire de Paris avait proposé l'ouverture d'un centre d'accueil temporaire qui ne serait pas à Paris, mais dans un bâtiment dont la ville est propriétaire dans l'Oise, département dont vous êtes sénatrice. Alors, des parlementaires, des Républicains se sont inquiétés il y a quelques jours dans une lettre ouverte adressée au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Vous, quelle est votre position sur ce sujet? Est-ce qu'il faut un centre d'accueil pour les migrants et dans l'Oise?
Écoutez, le ministre de l'Intérieur et la ministre chargée du logement ont répondu à cette question avec un plan d'accueil et de logement, 5000 logements ou solutions de logement mis à disposition des migrants qui ont le statut de réfugiés, qui vont permettre, avec ces solutions de logement, de libérer des places dans les centres d'accueil où aujourd'hui ils cohabitent avec les gens qui sont en attente du statut de réfugié. Donc 5000 solutions de logement aujourd'hui, c'est ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Et quant à la discussion de savoir le not in my backyard, pas dans mon jardin, sur les migrants, franchement, je rentrerai pas là-dedans, c'est digne de personne.
Léon Lemanière.
Pourquoi la gauche aujourd'hui a peur de l'immigration ? On sent qu'il y a une réticence on ne sent pas une gauche ouverte des réfugiés politiques. Il faut toujours qu'on dise, mais attendez, peut-être les quotas, mais attendez.
Je dirais pas que la gauche a peur de l'immigration. On est en train d'observer des bouleversements géostratégiques dont on n'arrive pas totalement à mesurer l'ampleur et la durée. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu qu'on rentre dans un processus qui soit long en termes de fuite de gens qui cherchent à échapper à la guerre, à la misère.
Voilà. Peu de réfugiés par rapport à l'Allemagne, par exemple.
Et réfugiés syriens, si on prend cet exemple, oui. 5000 en 3 ans, c'est pas un très gros chiffre, c'est le minimum qu'on puisse dire. Les autres pays ont tous fait plus que nous.
Oui, la France accueille quand même une immigration économique qui n'est pas négligeable non plus. Hein, donc, et quant à l'Allemagne, elle a des considérations qui ne sont pas que simplement des considérations liées aux difficultés des migrants. Elle a aussi des considérations démographiques qui lui sont propres, qui fait que nous on a beaucoup de bébés, l'Allemagne en a beaucoup moins.
Mais ça, c'est une immigration, je pense. Voilà, c'est une conséquence sur moyen plus long terme.
Mais
sur
moyen terme. Mais parce que la France est exigeante avec elle-même sur les conditions d'accueil aussi, ce qui fait que c'est un des paramètres. La France, moi je vois par exemple sur les mineurs isolés étrangers. C'est-à-dire ces enfants qui arrivent tout seuls. Mmh. Enfin, ces enfants, c'est pas mmh. des petits enfants, c'est des grands ados. Ces enfants, dès qu'ils arrivent en France et ce sont des mineurs, ils sont considérés comme mineurs isolés et donc ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance au même titre qu'un enfant dont les parents sont délinquants, le battaient ou sont plus en situation de l'élever. Donc on a des conditions d'accueil, par exemple pour les mineurs isolés étrangers, mmh. qui sont particulièrement bienveillantes et ils ont une formation, ils ont un toit, ils sont pris en charge, ils sont encadrés par des éducateurs et puis en plus ils ont une formation, enfin voilà, ils s'en sortent et souvent ils s'en sortent très très bien d'ailleurs, fort heureusement, et ça fait une des citoyens, des futurs citoyens qui auront bien grandi dans une France accueillante.
C'est bon pour la croissance, l'économie, l'immigration. C'est bon pour l'économie d'un pays.
C'est ce que disent un certain nombre d'économistes qui sont pas de gauche, qui sont, on peut pas soupçonner d'être uniquement mus par le goût des droits de l'homme, qui disent qu'effectivement la France est un pays qui doit voir son avenir avec l'immigration. Le problème, c'est comment on assume ce débat-là dans un pays qui, par ailleurs, est traversé par des courants et des replis identitaires qui, en plus, sont attisés par des formations politiques de droite et d'extrême droite qui ne n'aident pas les citoyens français à prendre la mesure de ce débat et à bien le traiter. C'est notre problème aujourd'hui, c'est comme on dit la vérité aux Français.
C'est votre rôle. Voilà. C'est le rôle de la gauche.
Oui, c'est le rôle de la gauche. À condition quand même que tout le monde rentre dans le débat avec un minimum d'honnêteté intellectuelle, de bonne volonté.
Plutôt que de parler de canalisation.
Voilà, plutôt que de parler effectivement de fuite d'eau. C'est pas comme ça. C'est pas, voilà, vous l'avez évoqué vous, c'est pas en disant, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, que les migrations sont l'équivalent d'une fuite d'eau, qu'on aide les Français à mesurer ce que sera demain avec les problèmes géostratégiques que j'ai évoqués tout à l'heure et les opportunités effectivement en croissance que sont des nouveaux entrants en France. Et donc la difficulté, elle est psychologique plus qu'économique dans ce cas-là.
Je voudrais qu'on parle des régionales. Vous vous présentez dans la grande région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Ça fait des mois que les sondages sont extrêmement mauvais pour la gauche. Alors le dernier donne le Front National. On attend dans quelques jours l'officialisation de la candidature de Marine Le Pen au-delà de 30%. La droite suivrait avec 28%. Le PS loin derrière à 18%. Franchement, Laurence Rossignol, on voit mal comment vous allez pouvoir remonter la pente.
Ah bah, pour remonter la pente dans cette future grande région, moi je suis effectivement candidate régionale, un mot pour dire que je trouve que c'est une magnifique aventure que de construire cette nouvelle région dans Pas-de-Calais-Picardie. Je trouve que c'est une future belle région. Ceci étant dit, elle est politiquement pas facile, surtout dans la période. Mais il y a une seule solution, hein, et ça va être l'objet des discussions qu'on aura dans les mois à venir, c'est qu'il faut que la gauche s'unisse.
Des alliances avec les écologistes. Jusque-là, les écologistes avaient dit autonomie partout, sauf dans les régions à fort risque FN. Ce week-end, en région PACA, ils ont voté pour l'autonomie. Est-ce que vous avez encore un vague espoir que ça fonctionne dans votre région? On voit que Sandrine Rousseau, qui est tête de liste écologiste, dit l'union, d'accord, mais derrière moi.
Écoutez, Sandrine Rousseau, j'ai fait un livre avec elle, je la connais bien, sur un petit manuel pour de survie pour les femmes en politique. Et c'est une fille, c'est une élue sensée. Et l'enjeu en Picardie et dans le Grand Nord Picardie, c'est pas simplement que le PS disparaisse, c'est que tout le monde disparaisse avec le PS, parce qu'il faut pas croire qu'un deuxième tour dans lequel on sera tous derrière les deux premières listes va être un deuxième tour dans lequel certains vont s'en sortir mieux que les autres. On sera tous dans la même difficulté. Donc on est quand même aujourd'hui, on est 6 mois avant les élections, on est dans le temps des discussions. Je souhaite que ces discussions elles débouchent en Picardie, et puis surtout que les citoyens en Picardie qui veulent pas du Front National, Marine Le Pen ou un autre, je sais pas qui sera candidat pour le Front National, qui veulent pas du retour de la droite dans cette région, nous disent aussi qu'ils attendent de nous qu'on s'unisse. Moi à gauche, les socialistes en sont convaincus, du moins moi j'en suis convaincue. Chez les écologistes, ça semble se poser des questions. Il y a aussi des discussions à avoir, parce qu'on n'a pas que les écologistes comme partenaires dans ma région. Moi, j'en ai des partenaires qui sont issus du MUP, c'est-à-dire la formation politique de Robert Hue. Et tous ensemble, on dirige nos deux régions depuis des années en bonne harmonie. Qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, on aille donner cette région à la droite ou à l'extrême droite? Rien. Rien. Donc, c'est je pense que les conversations doivent commencer, mais qu'on doit être appuyé par les citoyens là-dessus.
Pour autant, si on en s'en tient toujours aux régulières enquêtes d'opinion, même avec une liste d'Union de la gauche, vous grimperiez, mais vous resteriez troisième, loin derrière. Pour beaucoup de voix, le souci, c'est peut-être aussi la personne qui tire la liste, Pierre de Saint-Ignon, dont on peut dire qu'il n'est pas extrêmement connu. Et ces voix-là disent que Martine Aubry n'aurait pas dû refuser ce combat et qu'elle devrait y aller. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Écoute, ce que j'en pense, c'est que Martine Aubry a fait le choix de la... Elle ne peut pas être maire de Lille et présidente de la région. C'est deux mandats d'exécutif qui ne sont pas cumulables. Aujourd'hui, elle a choisi la mairie de Lille. Et Pierre de Saint-Ignon est notre candidat, c'est un bon candidat. Et plutôt que de supputer sur qui pourrait être la bonne candidate à la place de l'un, je propose aux socialistes, particulièrement dans cette grande région, de se rassembler derrière celui qui est notre candidat, de le légitimer et de lui donner la force de l'union derrière lui.
La question va se poser, peut se poser en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais aussi en PACA. Si la liste de gauche arrive en troisième position, qu'est-ce qu'on fait ?
Écoute, on n'en est pas là. Voilà, on n'en est pas là.
Il faut se poser la question, parce que vous n'allez pas vous poser la question le soir du premier tour.
Oui, mais avant de se poser cette question-là, on va déjà voir où ce qu'on a réussi à faire avec nos partenaires. Vous savez, une campagne, aujourd'hui, on dit, oui, même si on additionne, c'est le même résultat, même si la gauche est unie, elle est toujours troisième. Ça, c'est 6 mois avant. Après, il y a une dynamique de campagne qui se fait. Moi, je suis convaincue que la gauche rassemblée en Picardie, elle peut gagner en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Je suis une élue Picarde, j'ai pas encore tout à fait le grand nom. En Nord-Pas-de-Calais-Picardie, je suis convaincue que la gauche rassemblée peut gagner parce que c'est une autre dynamique qui se fera à ce moment-là pendant la campagne. Donc, aujourd'hui, mon sujet, c'est le rassemblement de la gauche pour le premier tour, c'est pas ce qui va se passer au deuxième tour, parce que dans ce cas-là, je pense que les troisièmes, ce sera pas nous.
Et les rassemblements socialistes aussi, parce que on sait que les gens du Pas-de-Calais aiment pas trop Pierre de Saint-Ignon, qui est au Brice, qui est du Nord. Les Picards ne considèrent qu'ils devraient avoir la présidence de région et c'est un nordiste qu'il a eu.
Non,
les militants sont assez... disent, on nous a pas demandé notre avis, il y a eu qu'un seul candidat au moment de la primaire, personne n'a pu se présenter de notre côté.
Oui, enfin, Pierre de Saint-Ignon a été élu, il y a eu qu'un seul candidat, parce que c'était un candidat de rassemblement dès le début. Et les élus de Picardie sont vigilants à ce que sera demain la place de ce qui est aujourd'hui la Picardie, la place d'Amiens, toute une série de sujets comme ça d'identité. Mais tout le monde est rassemblé derrière Pierre de Saint-Ignon. Et vraiment, j'invite tous les socialistes de cette grande région à se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la constitution d'une liste de rassemblement.
On ne peut pas ne pas vous poser la question, vous qui êtes sénatrice. Je le disais, un rapport remis hier au ministre de la Ville propose de plafonner à 70 ans l'âge d'un candidat à une élection. Est-ce qu'il y a un âge limite pour faire de la politique, Laurence Rossignol ?
Là, si vous voulez, c'est la secrétaire d'État chargée des personnes âgées qui va vous dire qu'aujourd'hui, 70 ans, c'est jeune. Voilà, c'est jeune. D'autant que... Moi, cette proposition, bon, ceci dit, c'est un rapport, il y a 25 propositions. Je ne sais pas pourquoi on s'est concentré sur celle-là. Il y en a d'autres.
T'as quand beaucoup même... d'élus sont concernés, peut-être.
Oui, il y a d'autres propositions quand même mérité qu'on en discute. Mais je la trouve pas sérieuse. Voilà, d'abord, elle donne un regard sur les 70 ans qui ne correspondent pas à la réalité. Enfin, les gens qui ont inventé ça, ils n'ont pas 70 ans et ils n'ont pas mesuré le dynamisme qu'ont encore beaucoup, beaucoup de gens à 70 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas en poussant les vieux que les jeunes vont se faire de la place en politique. Les jeunes en politique, il faut qu'ils viennent. Et c'est pas les vieux leur problème. C'est globalement les partis politiques, le fait qu'on leur fasse pas envie et qu'on les attire
c'est
pas.
C'est le renouvellement quand même. C'est...
Mais
le renouvellement...
Quand on a 70 ans, qu'on a déjà 5 ou 6 mandats.
Alors ça c'est autre chose, le cumul des mandats dans le temps. Mais il y a des gens qui commencent la politique quand ils sont en retraite ou quand les enfants sont élevés pour les femmes.
Eh bien, on va pas leur dire c'est fini. On verra peut-être pour la politique à la retraite. En tout cas, c'est la fin de Mardi Politique. Merci à vous Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées, on l'a donc compris, mais aussi de l'enfance. Merci à Audrey Yatoni pour la préparation de cette émission. Merci aussi à Mathias Golchen qui l'a réalisé. Mardi Politique vous donne rendez-vous donc à la rentrée le 1er septembre prochain.